MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on aborde un thème super intéressant, super riche. Comment comprendre l'Ancien Testament? Alors certains, vous allez me dire, bah, c'est facile de comprendre l'Ancien Testament. Ah, c'est pas si simple que ça.
Il suffit de lire l'hébreu. Hein.
Il suffit de lire l'hébreu, tout simplement. Lisez-vous l'hébreu, pas moi en tout cas. Donc en tout cas, j'ai avec moi quelqu'un qui sait lire l'hébreu, Jonathan Berceau, bonjour.
Bon matin, bonjour chez vous.
Salut Omer, ça va toi aussi?
Bonjour, qui ne lit pas l'hébreu.
Qui ne lit pas l'hébreu.
Mais qui a le Saint-Esprit.
Ah, c'est vrai que ça aide, c'est vrai que ça aide. L'idée c'est d'avoir les deux, c'est encore mieux.
C'est moins drôle.
Je t'encourage, tu peux encore te lancer dans des cours d'hébreu.
Kolradash taratashamesh.
Mais je n'aurais pas dit mieux.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Rien de nouveau sous le soleil. Ah là là, l'hébreu, non, je ne me suis pas lancée là-dedans. J'essaye encore d'apprendre l'anglais, tu vois. Ah. Donc je suis encore à ce stade-là, moi. Ah. Omer, au moins, toi, tu m'as battue sur ça.
I understand.
Oh yes. Aujourd'hui, on parle du nouveau, de l'Ancien Testament, pardon, mais du nouveau aussi, puisque forcément, les deux sont liés. Et Jonathan, on te fait travailler aujourd'hui. Tu vas faire la pensée, mais tu vas aussi faire deux rubriques, une question, une réponse. Premièrement, tu répondras à la question « Les chrétiens doivent-ils obéir aux lois de l'Ancien Testament ?» C'est hyper important. Il peut y avoir beaucoup de confusion par rapport à tout ça. Et la deuxième question « Pourquoi Dieu semble-t-il plus dur dans l'Ancien Testament ?» Et même certains diront « plus méchant ?» Est-ce que c'est le même Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau ?
Sévère.
Exactement. Donc, on verra tout ça dans cette émission où on va pouvoir décortiquer ensemble. Et je crois qu'après cette émission, vous lirez peut-être plus l'Ancien Testament de la même façon ou en tout cas avec la même paire de lunettes, on va dire. Allez, Jonathan, on commence tout de suite avec toi, avec notre pensée du jour.
Alors, le titre pour cette pensée du jour, c'est « La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu ?» Vraiment. Il faut croire qu'il peut y avoir des doutes. Alors évidemment, pour un chrétien, il veut dire, mais évidemment, la Bible, c'est la parole de Dieu, puisque la Bible dit qu'elle est la parole de Dieu. Alors certains vont dire que c'est un peu une référence circulaire. Est-ce qu'on peut croire que la Bible est la parole de Dieu juste parce qu'elle dit elle-même qu'elle est la parole de Dieu? Alors il faut comprendre, ça vient d'où la Bible? La Bible, en fait, ce sont au départ des auteurs inspirés, remplis du Saint-Esprit, qui vont mettre par écrit les révélations qu'ils ont eues. Et pour ça, juste quelques références. Par exemple, Exode, chapitre 34, verset 27, l'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est sur cette base que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. » Donc, il fallait écrire les paroles que Dieu avait donné à Moïse. Dans Ésaïe, chapitre 30, verset 8, le prophète Ésaïe, Dieu lui dit « Maintenant, viens écrire cette parole devant eux sur une table et enregistre-la dans un livre. » Prophète Jérémie, même chose, « Voici ce que dit l'Éternel, Jérémie 32, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que j'ai dites. » Le prophète Habacuc, « L'Éternel m'a répondu et a dit, mais la vision par écrit. » Donc, la Bible, dès le départ, avec les plus anciens textes, c'est une révélation, c'est une parole inspirée, c'est Dieu lui-même qui dit « mets cela par écrit ». Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui une compilation de plusieurs livres, parce que dans la Bible, on a plusieurs livres de plusieurs époques, de plusieurs écrivains, mais ce n'est pas les livres qu'on a choisis en disant « tiens, lui, il m'intéresse, lui, il ne m'intéresse pas ». Non, non. Ce sont tous des livres que l'on considère comme étant inspirés, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'une inspiration, d'une intervention divine, où c'est Dieu lui-même qui a parlé et on a mis par écrit ses paroles. Alors évidemment, pour un chrétien aujourd'hui, c'est très important de considérer la Bible comme étant la parole de Dieu. Si la Bible, c'est la parole de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui me parle au travers de la Bible. Mmh. Si la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole d'un homme, bah dans ce cas-là, que je lise Platon, Socrate ou la Bible, ça revient à peu près à la même chose. L'apôtre Paul écrit à Timothée et dit dans 2 Timothée 3,16, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu. » Pour lui, ça ne fait aucun doute, toute l'écriture est insufflée, inspirée de Dieu. Ça vient d'en haut, ça vient de Dieu, parole de Dieu et non pas parole des hommes. C'est important de comprendre cela. D'autres vont faire une nuance en disant dans la Bible, il y a la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors c'est très dangereux de faire ça, parce qu'après on va faire le choix, on va dire, ah peut-être que ce passage-là, ça c'est vraiment la parole de Dieu, mais ça c'est la parole de Paul, ou ça c'est la parole de Jacques, ou ça c'est la parole. Non, non, toute l'Écriture, toute la Bible est la parole de Dieu. Jésus lui-même va le dire quelque part quand il va être tenté dans le désert et que le diable va dire, ben, tiens, t'as qu'à changer ces pierres en pain si vraiment tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui répond, il est écrit. Il répond avec la parole. Et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et quand Jésus fait référence aux Écritures, il associe l'Écriture comme étant la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire aussi aujourd'hui. C'est une question de foi, c'est une position de foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer, prouver, démontrer mathématiquement. Mais si je pars sur l'hypothèse, sur la base, sur ma foi, en disant « la Bible est la parole de Dieu », alors cette parole va devenir efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, va devenir puissante. Mais maintenant, si dès le départ, vous avez des doutes sur la véracité de la Bible comme étant parole de Dieu, ben, il n'y a plus rien qui tient.
Ah non, ça va être compliqué de mener une vie chrétienne parce que ben, on sera en fait très chancelant, avec beaucoup de doutes, et on peut comme ça tordre finalement ce que dit la Bible. Notre verset du jour aujourd'hui est dans Matthieu 24, au verset 35. « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Et c'est le Seigneur qui parle. En fait, la Bible n'a pas changé, elle est la même, mais notre façon de la comprendre, par contre, et de l'interpréter, même surtout pour utiliser le bon terme, elle a changé. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir en fait une façon de comprendre la Bible très différente d'un mouvement à un autre, parfois même d'une église à une autre. Et puis là, c'est comme ça qu'en fait, on discrédibilise un petit peu la parole de Dieu et puis qu'on commence à se dire, bah, finalement, bon, la Bible, elle n'est pas très, très claire, en fait.
C'était la même chose au temps de Jésus. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vient poser une question à Jésus et Jésus lui dit, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ? Et certains ont traduit, qu'est-il écrit ? Comment est-ce que tu le comprends ? Ou qu'est-il écrit ? Comment est-ce que tu l'interprètes ? Et donc, ce n'est pas le tout de dire c'est écrit, mais comment est-ce qu'on le comprend ? Oui. Comment est-ce qu'on l'interprète ?
C'est ça. Et quand on parle de comprendre l'Ancien Testament, ben, on se retrouve face à ça, face à énormément de livres, puis c'est quand même la majorité de la Bible, et qu'on peut parfois ne pas bien comprendre, ne pas bien interpréter, justement, pour reprendre ce terme-là. Et ça crée parfois beaucoup de confusion.
Oui, parce qu'on se trouve avec des textes lointains et des textes dont on ne comprend pas aussi la culture. Et donc, c'est facile pour moi, à ce moment-là, d'interpréter le texte au premier regard, basé sur moi. Moi, je suis africain. Quand on dit qu'on a donné la dot pour Rebecca, moi, je comprends. Pour moi, ce n'est pas une question qui se pose.
Ça, mais tu le comprends comme africain.
Je le comprends comme africain.
Mais si tu étais en Inde, Inde, c'est la fille qui donne la dot.
Ah. Et si tu es en Suisse, il n'y a pas de dot, mais tu peux donner du fromage.
Mais même en Suisse, mes arrière-arrière-grands-parents, la fille, il y avait un trousseau avec la fille.
C'est vrai.
Donc la fille venait avec une espèce de dot.
Oui, avec les draps brodés, les torchons de cuisine.
Mais ça venait de la fille, ça venait pas du gars.
C'est vrai.
C'est ça, donc...
Vous voyez, l'aspect culturel.
Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que au moins le terme, il est compréhensible. Mais encore une fois, on se rend compte, même s'il est compréhensible, on commence à nager dans des choses. Et c'est ce qui peut rendre, en fait, l'Ancien Testament ardu à comprendre. Et parfois, je pense que Jonathan va en parler tout à l'heure, des choix qui vont être faits parfois dans l'Ancien Testament, ben nous, on va les regarder avec les yeux de la société d'aujourd'hui, des yeux de, comment on appelle ça encore, de la démocratie. Voilà le choix démocratique, etc. Mais à l'époque, ça n'opérait pas comme ça, Dieu n'opère pas comme ça. Et c'est un défi, et je crois que c'est important que nous puissions aborder ça, espérant que ça va éclairer plusieurs personnes et puis les encourager à trouver une richesse au travers de l'Ancien Testament.
Tout à fait. Et on en parlait un peu dans la loge tous les deux, parce que effectivement, on a des fois du mal à comprendre. On a l'impression d'une grande différence en fait entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On en parlera tout à l'heure, mais on a presque l'impression que c'est pas le même Dieu. Mais finalement, en fait, c'est la révélation qui est différente.
C'est ça. Il y a une progression. L'apôtre Paul va même dire que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Si vous voyez l'ombre de quelqu'un, vous ne savez pas grand-chose. Vous avez à peu près la taille, la silhouette. Bon. Mais quand il est éclairé, là, vous voyez beaucoup plus. Et l'Ancien Testament, c'est juste l'ombre des choses à venir. Ou même, il va utiliser le mot pédagogue en disant c'est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Donc, c'est une préparation, une formation. Donc, c'est pas clair. L'apôtre Paul va parler de ceux qui lisent les Écritures. Là, ils ont comme un voile. Mm-hmm. Et évidemment, il fait référence à Moïse aussi qui avait un voile. Et quand ils lisent, là, ils ont un voile. Mais en Christ, le voile est ôté.
Oui.
Donc, dès qu'on arrive dans la révélation du Nouveau Testament, tout devient clair, tout devient plus clair. Donc, avoir juste l'Ancien Testament, c'est sûr que ça peut être confus. Mais la beauté un petit peu de la Bible, c'est que maintenant, on peut lire l'Ancien Testament avec l'éclairage du Nouveau Testament et tout va faire du sens.
Bien sûr, et c'est important de comprendre parce que la Bible ne se contredit pas. Quoi qu'il en soit, le message, en fait, le cœur du message n'a pas changé sur toute la durée. Mais si on se concentre juste sur l'Ancien ou juste sur le Nouveau, c'est comme, d'une certaine façon, ça peut être un peu incomplet. Mmh. Et en fait, il y a une continuité qui est faite et cet éclairage dont tu parles, cette compréhension, cette connaissance de Dieu qui va s'affiner dans le Nouveau Testament et qui va nous montrer, en fait, le cœur du Père, le cœur compatissant, miséricordieux du Père, bien qu'il se voit aussi dans l'Ancien Testament. Il est peut-être moins mis en avant, mais il est là quand même. Mais en fait, il y a cette continuité qui est faite et cet éclairage qui est fait à l'aide du Saint-Esprit, où dans le Nouveau Testament, il y a des choses qui deviennent peut-être plus précises, plus nettes, alors que, comme tu le dis, on avait l'ombre dans l'Ancien Testament, c'est éclairé dans le Nouveau Testament. Mais ça ne veut pas dire que ça se contredit. Et avant de passer aux différentes questions, tu me disais qu'il y avait un point qui était important à parler par rapport à Moïse.
Mais par rapport à la loi.
Oui.
Bon, parce que des fois, l'Ancien Testament, on résume ça à la loi.
Oui.
Hein, mais même dans le Nouveau Testament, quand Jésus parle de l'Ancien Testament ou du Premier Testament, vont dire certains, on va parler de Moïse ou du Pentateuque ou de la loi. Bon, la loi de Moïse et la loi du Nouveau Testament, si on peut dire ça comme ça, et on va la centrer avec le sermon sur la montagne. Mmh. Moïse descend de la montagne avec une loi. Et sur la montagne, Jésus vient avec une loi. Mmh. Et la grande différence, et à mon avis, ça, c'est ce qui va tout, ça va nous aider à bien comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, on est dans une loi de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mmh. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. On est dans le faire, dans ce qu'on a le droit ou de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Tandis que dans le Nouveau Testament, on n'est pas dans le faire, on est dans l'être, ce que tu dois faire. Être. Le Nouveau Testament, c'est pas un ensemble de lois en disant tu as pas le droit de faire ceci, tu as pas le droit de faire ceci, mais voilà ce que tu dois être. Et si tu es bon, si tu es généreux, si tu es compatissant, si tu es rempli de l'amour de Dieu, c'est sûr qu'il y a des choses que tu vas faire d'une certaine manière.
C'est ça, ça va émaner de toi.
Et c'est de l'abondance du cœur, et ben que la bouche parle et qu'il va y avoir des actes de bonté, de générosité.
Voilà.
Mais tu vas pas être généreux parce que tu es obligé d'être généreux. Tu vas être généreux parce qu'à l'intérieur de toi, ton être a changé. Alors, le problème, c'est qu'on veut lire le Nouveau Testament avec le faire de l'Ancien Testament. Mm-hmm. Mais le Nouveau Testament, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut être.
C'est ça. Cette loi gravée dans nos cœurs,
c'est ça.
Comme dit la Bible. Et on enchaîne, puisqu'on parle de la loi. On va enchaîner, on va passer donc à notre rubrique « Une question, une réponse ». Alors, la première question, les chrétiens doivent-ils obéir aux lois de l'Ancien Testament? On y va avec cette rubrique. Alors, bon, Jonathan, dis-nous tout, j'ai envie de dire.
Alors voilà, ça tient en trois lettres, non.
Voilà,
on a tout dit.
Émission terminée, bonjour chez vous.
Le chrétien doit-il obéir aux lois de l'Ancien Testament? Alors des fois, pour piéger un petit peu, vous voyez, moi aussi j'essaye de piéger des pasteurs qui viennent avec des questions comme ça,
en disant,
est-ce que le chrétien est soumis aux 10 commandements? On va limiter ça, on parle des lois de l'Ancien Testament et on va parler des 10 commandements. Et la plupart vont répondre, mais bien sûr que le chrétien, il doit faire les 10 commandements, ne pas voler, ne pas tuer.
Pas commettre d'adultère.
Et le troisième commandement? Ah, C'est quoi le troisième? Le troisième, c'est le sabbat. Le troisième des 10 commandements. Est-ce que le chrétien, est-ce que vous faites le sabbat, vous? On va dire, ah ben non, 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 l'apôtre Paul, il est clair, on ne fait pas le sabbat. Donc, en fait, on est des chrétiens des 9 commandements. Vous voyez? Donc déjà, il y a quelque chose qui ne marche pas. Où on dit, oui, le chrétien, il doit suivre les 10 commandements, mais finalement, c'est plus 10, c'est 9 seulement. Parce que, d'une certaine manière, le chrétien du Nouveau Testament n'est pas sous la loi de l'Ancien Testament.
Voilà.
Mais Jésus va amplifier la loi. C'est-à-dire, c'est plus la loi de l'Ancien Testament, mais il va rendre ça peut-être même encore à un niveau supérieur. Vous savez, par exemple, dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, dit Jésus, que tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Jésus dit, avant, c'était le faire. Si tu étais meurtrier, tu étais coupable. Maintenant, si à l'intérieur de toi, tu penses du mal de ton frère, tu dis quel stupide, quel imbécile, raca, ça veut dire littéralement, il est creux là, il y a rien dedans. Bon, si tu penses ça de ton frère, tu as déjà commis. Et Jésus dit, Moïse a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne feras pas d'adultère. Et là, c'est le faire. C'est soit on l'a fait, soit on ne l'a pas fait. Mais Jésus dit, si dans ta tête, tu convoites la femme de ton prochain, tu as commis l'adultère. Il va dire, mais non, je n'ai rien fait, j'ai juste pensé. Ben oui, mais ça, pour Jésus, vous voyez, Jésus met la barre plus haut. Donc, le Nouveau Testament n'est pas celui qui va gommer tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, mais on voit que les exigences deviennent même plus élevées. Donc, le chrétien du Nouveau Testament doit suivre tout ce qui est confirmé ou révélé ou amplifié, on va dire, dans le Nouveau Testament, mais dans toutes les prescriptions de l'Ancien Testament. Concernant les prescriptions alimentaires, l'apôtre Paul va dire, nous, on n'est plus dans l'alimentaire, là. Il y en a qui mangent de la viande, il y en a qui ne mangent pas de viande, et ils ne rentrent pas dans ces débats-là. Toutes les prescriptions alimentaires, les prescriptions concernant les sacrifices, les tenues vestimentaires, toutes sortes de choses de la loi, le chrétien n'est pas soumis à ces choses. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'Ancien Testament? Non, parce qu'il y a toujours des choses pour nous servir d'instruction, c'est utile, et on va apprendre des choses. Ce que Dieu n'aimait pas dans l'Ancien Testament, il ne l'aime toujours pas dans le Nouveau. Dieu n'a pas changé. Mais on n'est plus sous la loi, dans le sens sous l'obligation et la contrainte de mettre en pratique ce que l'Ancien Testament nous demandait.
C'est ça. Et en fait, ça reprend le point dont tu nous parlais tout à l'heure, cette histoire de cœur, finalement.
Voilà, on n'est plus dans le faire.
Jésus se concentre beaucoup plus sur l'état de notre cœur, puisque c'est de là que tout part, en fait.
On est... Bon, est-ce que je peux ouvrir en 30 secondes le sujet de la dîme? Bon, en 30 secondes, la dîme, c'est fort.
Vas-y, bon, je suis défi à lancer.
La dîme, c'est la loi. En fait, le Nouveau Testament dit, non, non, si tu donnes, c'est pas parce que tu dois, mais c'est parce que tu es généreux. C'est un acte d'adoration, c'est un acte d'amour, c'est un acte de générosité. Mais j'ouvre une parenthèse, la dîme, c'est même pas la loi. Parce que Melchisédek, par exemple,
c'était
avant la loi. Mais bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le chrétien ne fait pas par obligation. Il n'y a pas d'obligation. Mais par contre, il y a de l'amour. Tout ce que le chrétien fait, c'est par amour, c'est pour adorer, c'est pour honorer le maître qui l'a tant aimé.
Ça change absolument tout.
C'est pas la même perspective.
Vraiment.
Ça change tout parce que je donne maintenant la dimension de l'amour que j'ai.
On sent le pasteur qui parle.
Et l'apôtre Jean dit, allez, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu.
N'a pas connu.
Voilà. C'est beau, c'est beau.
Parce qu'il y en a qui est dans les commentaires, dit « Ah, pasteur Jonathan a dit qu'il ne faut plus donner sa dîme. » Non, faut
non,
plus.
Non,
non je donne dans la dimension, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'aimer.
Moi, ce que je dis souvent, on a parlé que Jésus amplifie.
Oui.
Il dit « Vous avez entendu dire, moi je vous dis que, et c'est plus haut. » Moi, des fois, je paraphrase, vous avez entendu 10%, moi, je vous dis que, et mettez le chiffre que vous voulez là, mais à mon avis, ça monte.
Finalement, la dîme est amplifiée également. On va enchaîner avec la deuxième question, Jonathan, et ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment-là. Pourquoi Dieu semble-t-il plus dur, plus sévère dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est le cas, déjà?
La réponse est dans la question. Puisqu'il y a « semble ». Ça veut dire que ce n'est pas le cas. Voilà.
J'ai mal tourné ma question.
Donc Dieu n'est pas plus dur dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Des fois, on oublie que dans le Nouveau Testament, il y a Ananias et Saphira. Ça a été strict, ça a été sévère. Ouais. Mais maintenant, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est sûr qu'il y avait des mises à mort, qu'il y avait des, il y a eu des guerres, il y a eu des choses qui se sont produites là quand même, et c'était assez sévère. Hein, si on prenait deux personnes en flagrant délit d'adultère, bon, ben là, il y avait une lapidation, et c'était quand même très strict et très sévère. Mais on oublie, par exemple, que quand Jésus nous raconte la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, hein, il dit, il y en a un qui reçoit plusieurs... Il y en a un, il a reçu un talent. Et il revient en disant, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » On est dans le Nouveau Testament. Hein.
Oui, oui. «
Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, je suis allé cacher cet argent. » Et le maître dit, « Mais tu savais que j'étais un homme dur et tu as été paresseux. Tu aurais pu au moins mettre l'argent à la banque. Mm-mm. Il y aurait eu quelques intérêts. »
Et ça finit mal pour lui, d'ailleurs.
Et ça finit mal pour lui. Donc, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même que le Dieu de l'Ancien Testament.
Mm-hmm.
Maintenant, c'est sûr que la révélation est différente, que dans le Nouveau Testament, on va voir de quel amour le Père nous a aimés.
Mm-hmm.
Hein, va dire l'apôtre Jean, de ce qu'il a fait de nous ses enfants. Et, ou que Dieu prouve son amour pour nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est sûr qu'il y a une révélation d'amour dans le Nouveau Testament, il y a une amplification et on connaît Dieu d'une manière plus intense et plus vraie que ce n'était pas tout à fait le cas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la révélation, elle est partielle. On connaît une partie de Dieu et dans le Nouveau Testament, en Christ, Jésus dira « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et là, on a une révélation qui est plus exacte que ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Donc, il faut faire attention à ne pas trop conclure trop vite à partir des récits de l'Ancien Testament parce que la vision que l'on a de Dieu, elle est juste partielle et on ne connaît pas toute l'histoire. Mais dans le Nouveau Testament, là, on comprend mieux qui est Dieu. Donc le Dieu, c'est le même, hein, sauf que dans l'Ancien Testament, on n'avait pas toute l'information, et dans le Nouveau Testament, on sait tout concernant Dieu. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier, par exemple, le livre des Lamentations. Et dire, ah ben ça y est, on va commencer à se lamenter. Ben, c'est les Lamentations, mais quand même, Lamentations chapitre 3, verset 21, « Voici ce que je veux méditer et garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Même le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu plein de bonté, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu riche en compassion. Il ne change pas. Le Dieu du Nouveau Testament est le même. Alors maintenant, soyons prudents avant de dire le Dieu de l'Ancien Testament, je ne l'aime pas, moi j'aime le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. Hein.
Mm-hmm,
et
sûr.
Le Dieu du Nouveau Testament est aussi un Dieu sévère.
Oui.
Et il y aura un jugement dernier, et il y aura la rétribution des méchants, et il va y avoir des temps où on n'aimerait pas se retrouver devant le grand trône blanc, devant le tribunal, le trône du tribunal ici.
Oui.
Mais maintenant, c'est le même Dieu, mais on a une révélation de l'amour, de la compassion, de la tendresse que peut avoir le Père avec ses enfants, qu'il n'avait pas dans l'Ancien Testament.
Exact. Et je pense même que autant on peut avoir l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament a été plus dur, mais autant on peut des fois avoir l'impression que le Dieu du Nouveau Testament est trop doux, trop bon, alors que, en fait, trop bon, on n'est jamais trop bon, hein, mais dans l'image qu'on a, au point où on manque petit à petit de révérence et de crainte de Dieu, on en parlait d'ailleurs dans l'émission d'hier, vous n'étiez pas là, messieurs, mais on parlait de la crainte de Dieu. Et en fait, on a un peu falsifié les choses et on a édulcoré quand même cette droiture de Dieu, cette justice de Dieu, cette fermeté de Dieu qui n'a pas changé. Et il y a ce verset dans le Nouveau Testament, on ne se moque pas de Dieu.
Mais dans l'Ancien Testament, la crainte, c'était vraiment la peur.
Mm-hmm,
on avait peur de Dieu.
Oui.
Tandis que dans le Nouveau Testament, la crainte de Dieu, ce n'est plus une question de peur, mais c'est plutôt « je crains de lui faire de la peine
mm-hmm. ».
Ce n'est pas « j'ai peur de ce qui va me tomber dessus
oui. ».
Mais je veux l'honorer
voilà.
et je crains de pas être à la hauteur. La crainte de Dieu, elle est plus dans ce sens-là.
Exact. Et je crois que l'image qu'on a de Dieu va beaucoup jouer par rapport à ça. Et je pense que, j'en parlais dans l'émission d'hier, mais que cette crainte de Dieu C'est peut-être un petit peu trop étiolé, justement, et on a oublié, oui, le Dieu quand même strict que nous avons, qui n'a pas changé. Et c'est pas ce Dieu, j'insiste là-dessus, tu l'as dit, Jonathan, hein, mais il n'y a pas le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament. Et il n'a pas changé, en fait, sa vision des choses sur le péché n'a pas changé. Et son amour pour l'humanité n'a pas changé non plus. Ça se révèle, en fait, au travers de toute l'Écriture. Mais faisons attention de ne pas avoir cette impression, justement, que Dieu s'est un peu ramolli, finalement, après l'œuvre de la croix, et qu'il y a des choses qui sont plus si importantes que ça, et que, oui, mais ça, c'était avant, et on a édulcoré un petit peu le cœur de Dieu.
Oui, mais lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, c'est vrai qu'on voit, bon, Corée, Dathan, Abiram qui meurent, le peuple d'Israël, mais il y a tellement de textes qui citent la bonté de Dieu dans l'Ancien Testament. Et quand on regarde les livres prophétiques, il y a toujours... Au jugement de Dieu, il y a toujours une lueur d'espoir, qu'ils seront restaurés, que si vous péchez, oui, je vais vous éloigner, mais je vous ramènerai. En fait, le caractère de Dieu, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il demeure en fait le même. Mais c'est sûr que oui, on voit des jugements sévères, mais si on lit bien entre le moment où Dieu avertit et le moment où le jugement arrive, il y a énormément de temps qui se passe. Les prophètes vont parler, les prophètes vont prévenir. Ils vont prévenir. Faites attention, le jugement va arriver. On le voit aussi à Ninive, lorsque Jonas va à Ninive.
Excellent.
Ben, il va à Ninive et puis ben, une ville est supposée périr. Et puis, ben, Dieu va... Le livre de Jonas finit avec une question. Et Dieu dit, mais tu as pitié, toi, du ricin, que tu n'as aucun contrôle dessus. Et moi, Dieu, je n'aurai pas pitié de cette ville dans laquelle je crois qu'il y a plus de 150 000 personnes qui ne connaissent ni leur gauche ni leur droite. Est-ce que, quelque part, on n'a pas stéréotypé l'Ancien Testament d'une certaine manière et on ne voit pas, en fait, les actes de bonté. On voit Sodome et Gomorre, le jugement doit tomber. Abraham qui intercède, Dieu dit, si je trouve de juste, je vais épargner. Le cœur de Dieu de l'Ancien Testament au Nouveau Testament a toujours été d'épargner le jugement, mais il y a des moments où on ne peut plus épargner le jugement parce que la patience de Dieu est arrivée au bout. C'est le même thème que l'apôtre Paul reprend en disant qu'à un moment donné, aussi pour nous, pour notre ère moderne, la patience de Dieu arrivera à son bout. Donc cela nous montre, en fait, que le message et le caractère de Dieu, il est le même dans l'Ancien Testament au Nouveau Testament.
Excellent. Merci. Vraiment passionnante émission encore. Je pense que vous avez été aussi passionné que moi. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je suis désolée pour vous, hein, parce que c'était passionnant. Merci à tous les deux. Omer, on va se quitter pour cette semaine, mais tu reviendras bientôt nous voir. T'es de retour un petit peu plus souvent qu'avant quand même. On arrive à te revoir et on est ravis de toujours t'accueillir. Et puis Jonathan, demain, on est ensemble. Alors pour un thème super intéressant encore, école biblique pour ou contre. Il y aura du débat demain. On sera avec Aurélie, on va débattre pour ou contre l'école biblique. Ça s'annonce être un thème très intéressant.
On va mettre les grandes boxes.
Si tu veux, tu peux. Aurélie aime énormément les débats en plus. Hein. Mais bon, on a le même esprit, donc normalement, on finira par se mettre d'accord en tout cas. Alors on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.